Bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite à prendre place gentiment au fond de la salle. Il paraît que c'est les mauvais élèves qui vont au fond de la salle. On verra si ça se vérifie. Je m'appelle Joanne Rochelle. J'ai le plaisir d'être le modérateur ce soir et de vous souhaiter très très brièvement la bienvenue à la deuxième partie de cette journée sur l'italianité. Après les salutations officielles, nous aurons une table ronde. Vous voyez, ça sera belle table. Beaucoup de gens pour parler de ce thème. Et puis surtout, j'ai envie de dire surtout, avoir un échange avec le public, qui est un public intéressé, connaisseur, et qui a très certainement envie de poser des questions aux gens qui seront sur mon podium. Et je me réjouis d'ores et déjà d'entendre vos questions, vos opinions, vos remarques. Sans plus de transition, j'aimerais accueillir deux personnes pour les salutations. Madame Weber Kalbermatten, la conseillère d'État, et puis Monsieur Charles Baird de Pro Helvetia. Madame la conseillère d'État, je vous passe à vous tout d'abord la parole. Vous avez the floor is yours, comme on dit en bon italien, pour quelques petits mots de salutation.
Sehr geehrter Herr Charles Baird, Präsident der Stiftung Pro Helvetia, Monsieur Ambassadore d'Italie Marco Del Panta, liebe Ada Mara, Nationalrätin, und Luc Ador, auch Nationalrat, geschätzte Mitglieder der Gruppe Italianita, meine Damen und Herren, Freunde der Kultur, Kulturschaffende zwischen der Schweiz und Italien. En tant que ministre de la Santé et de la Culture du Canton du Valais, je suis vraiment heureuse de vous saluer ici au sein des Arsenaux. Cet endroit est devenu d'aujourd'hui un lieu moderne de la culture, de la connaissance et des échanges. Ce fut également le cas dans le passé, mais d'une toute autre manière. En effet, les arsenaux ont été, comme le nom l'indique, une armurerie. Ils furent construits en 1895, puis 1917, à une époque où beaucoup d'Italiens vivaient et travaillaient ici en Valais. Je ne peux pas dire avec certitude si des ouvriers italiens du bâtiment ont aussi œuvré aux arsenaux. Mais une chose est certaine, les Italiens ont constitué le premier grand groupe de migrants venus en Valais. Les Italiennes et les Italiens ont donc apporté une contribution significative à la vie économique, culturelle et sociale du Valais. Et ils en le font encore aujourd'hui. Malgré les difficultés et les obstacles rencontrés, ils ont laissé une forte empreinte dans notre région. Ainsi, les noms tels que Dalpaus, Fantoni, Centinetta, Canada, Rapaglia, Regrosio ne sont que quelques exemples du grand enrichissement apporté en Valais par les familles immigrantes italiennes. De nos jours, plus personne ne pourrait imaginer les Valais sans les Italiens et les Italiennes. Ils sont devenus une partie d'entre nous. D'anciens migrantes et d'anciennes migrantes sont actuellement des citoyennes et des citoyens valaisans. L'italianita est omniprésente en Valais, ce qui est une bonne chose. Et la diversité culturelle ne peut se développer qu'en vivant avec son temps. Der deutsche Politiker Gustav Heinemann hat diesen Umstand mit folgenden Worten ausgedrückt. Wer nichts ändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Dem stimme ich gerne zu und darum bin ich auch stolz und dankbar, dass im Jahr 2011 die Italianita im Wallis auf der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz aufgenommen worden ist. Es ist nun eine von 167 lebendigen Traditionen, die als immaterielles Kulturerbe aufgeführt und damit bewahrt werden soll. Aus demselben Geist ist das Kulturausspruchsprogramm Via Vai, Contrabando Culturale Svizzera Lombardia, entstanden, welches von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia initiiert und in Partnerschaft mit dem Kanton Tessin und Wallis, der Stadt Zürich sowie der Ernst-Göhner-Stiftung realisiert wurde. Das Programm stand unter den Patronaten der Region Lombardei und der Stadt Mailand. Ziel war die kulturelle Kooperation zwischen der Schweiz und Italien. Durch die Umsetzung von 18 binationalen Projekten wurde angestrebt, die Beziehung der beiden Nationen zu vertiefen und Netzwerke zu schaffen, deren Beziehungen das Austauschprogramm überdauern werden sollen und können. Es freut mich sehr, dass dies gelungen ist. Dieser Tag heute markiert den Abschluss des Austauschprogramms via WAI, nicht aber der Abschluss der Beziehungen, die entstanden sind. Diese werden hoffentlich weiter bestehen und die Italianità im Wallis weiter stärken. Es bleibt mir also ein großes Dankeschön auszusprechen. Und zwar möchte ich Charles Baer von der Stiftung Pro Helvetia danken für die Bedeutung, die er und sein Team der Italianità von Anfang an beigemessen haben und für sein tatkräftiges Engagement für das Austauschprogramm via WAI. Ebenfalls möchte ich mich bei den Partnern bedanken, die das Programm mitgetragen haben. Enfin, je tiens à adresser tous mes remerciements aux parties prenantes qui ont le courage et la curiosité de faire preuve de la créativité dans ce programme passionnant, nous, sous de nouvelles conditions et malgré des barrières linguistiques. De grands projets ont émergé, mais aussi des amitiés. Je vous remercie et je vous souhaite encore beaucoup d'inspiration et de satisfaction dans vos actions. Et qui sait, peut-être verrons-nous bientôt émaner de nouveaux projets des groupes formés. Merci à l'Italianità pour sa précieuse contribution en Suisse et certainement en Valais. Merci beaucoup.
Merci Madame la conseillère d'État. J'invite Charles Baer, président de la Fondation Pro Helvetia, à nous saluer.
Madame la conseillère d'État, Madame la conseillère nationale, Monsieur le conseiller national, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais, mesdames et messieurs, vous dire le plaisir pour moi de prendre brièvement la parole ici à cette occasion de ce moment consacré à l'Italianità, qui est un élément constitutif de notre identité, un élément qui a été mis en évidence toutes ces années, notamment à travers le rôle du canton du Valais, qui l'a fait inscrire comme patrimoine immatériel, donc au niveau de l'UNESCO. Et c'est un élément qui est particulièrement important, et j'aimerais le souligner en vous remerciant, Madame la conseillère d'État, donc de nous recevoir ici en Valais, Monsieur Cordonnier, de nous recevoir ici en tant que directeur du service de la culture du canton du Valais, et remercier également la médiathèque qui nous reçoit ici. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire brièvement quelques mots. Le premier est sur la question de l'Italianità, qui est une question qui, comme beaucoup de notions qui rassemble, gagne souvent à ne pas être interrogé de trop près. Parce que forcément, il y a une dimension qui relève du mystère, parce que multifacette, l'Italianità repose bien entendu sur une question de racines, repose sur une question de langue, repose sur une question de culture, sur une question d'identité et finalement est un état d'esprit. Donc cette Italianità est pour nous particulière dans la mesure où elle est à la fois le fait d'une frontière et à la fois le fait d'une histoire de notre pays, terre d'émigration, qui a vu tant d'Italiennes et tant d'Italiens venir ici travailler, vouer leur énergie à la construction d'un pays, donc au niveau notamment industriel. Et j'aimerais dire que l'Italianità fait partie de la réalité. Elle est ancrée dans la réalité sociale de notre pays depuis cette époque des grands chantiers. Elle est aujourd'hui dans la réalité même historique, sociale, culturelle et politique de notre pays. Mais c'est aussi une frontière pour nous. Et c'est aussi une dimension intérieure très importante avec le canton du Tessin qui, bien évidemment, rassemble des gens autour de cette notion, mais que nous avons cherché également avec le canton du Valais, avec le canton de Zurich, avec la Lombardie, de faire vivre encore davantage à travers donc Via Vai, cet élément qui a quand même rassemblé et touché plus de 40 000 personnes à l'occasion de quelques 18 projets et pratiquement, j'allais dire, 250, je crois, événements. Donc c'est dire quand même cette importance, un état d'esprit, quelque chose qui doit encore nous interroger pour la suite, pour savoir la manière dont finalement ce lien peut être pérennisé au service d'une de nos identités qu'il convient de ne pas négliger, à l'heure où la question des frontières crispe tant de politiques, à l'heure également où la question des langues revit de nouveau des pages relativement difficiles dans notre pays, à l'occasion notamment des questions de priorité liées à la mondialisation et la place de l'anglais. Merci de votre attention, merci au canton du Valais d'avoir donné donc à notre programme également Via Vai et à cette discussion sur l'italianita une dimension très particulière. Merci.
Merci Monsieur Baer. J'invite mes invités à me rejoindre sur le devant. Ne soyez pas timides. Asseyez-vous librement, moi je me mettrai juste au milieu. Et le temps que mes invités s'installent, j'aurai l'occasion de les présenter dans une minute. J'aimerais dire que c'est un moment un peu particulier pour moi d'animer cette discussion, parce que le sujet me touche dans mon histoire familiale, comme j'imagine tant d'entre vous dans cette salle. Ce que je vais dire va sûrement paraître une banalité pour ce public spécifique. Mon grand-père a débarqué, on a toujours d'ailleurs une maison familiale près de Gravellona-Toce, juste de l'autre côté de la frontière. Donc j'ai ce côté, la famille Ripa, du côté de Monté. Et je pense, il nous a quittés il y a de ça 12 ans maintenant, je pense qu'il serait assez fier que je sois là ce soir en train de modérer cette discussion sur le thème de l'italianita. Je me demande qu'est-ce qu'il penserait de ce terme à titre personnel. Question ouverte, je lui la poserai ce soir peut-être. J'ai hérité de cette ligne familiale un passeport et étonnamment pas la langue italienne. Ça s'est bloqué au niveau de ma maman. Alors, compréhension passive, mais donc j'invite mes invités à être patients avec moi. On parlera français principalement sur ce podium. Si on veut avoir des questions ensuite en italien, pas de problème. Mais je leur demande d'avoir patience avec mes capacités à comprendre et à m'expliquer en italien. Et je crois que ça raconte aussi, d'une certaine manière, une part de l'histoire italienne de ce pays. Très bien. Un petit tour de présentation pour savoir qui c'est que nous avons autour de cette table ronde avant d'entamer les discussions. Je commence avec Adamara, elle a déjà été mentionnée par la conseillère d'État, conseillère nationale du canton de Vaud, du Parti socialiste et membre de l'intergroupe parlementaire Italianita. Je poursuis à votre droite avec Madame Suzanne Chapa-Wirtner, ethnologue, membre de la commission qui a porté ce projet d'inscription au patrimoine, qui aura l'occasion de nous en dire un petit peu plus sur ce projet. Vous êtes actuellement enseignante à l'ECAV. Je poursuis ici avec Sarah Bonavia, qui nous vient de Zurich. Merci d'avoir fait le trajet, nous rejoindre ici. Film documentaire, vous travaillez dans le milieu du film documentaire et vous êtes la présidente de l'association Fabrica di Zurigo, qui, vous nous le raconterez ensuite, rassemble la nouvelle génération de migrants italiens et veut leur donner une certaine voix. Je passe ensuite à gauche avec madame la professeure Nelly von San Giacomo, historienne, vous êtes professeure à l'Université de Lausanne, spécialiste, allez, ça ne sera pas une surprise, de l'italianita, et on aura l'occasion d'apprendre de votre expertise pour ce soir. Je passe aux deux messieurs de ce panel. J'avoue que c'est une expérience assez rare d'avoir une majorité de femmes sur un panel. Vous avez peut-être déjà fait l'expérience que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Ouais, il faut s'habituer. Mais ça me... Voilà, c'est juste, ça monte la voix. Ah, déjà les premiers applaudissements, c'est bon signe. Avec Domenico Messiano, beaucoup le connaissent ici en Valais, une figure des Italiens du Valais, président de l'association Italia Valais. Et vous m'avez confié, vous étiez aussi en lien avec Zurich, vous avez été directeur de l'école italienne du côté de Zurich. Voilà, ça fait beaucoup de Zurichois. J'habite moi-même Zurich, étant moi-même montésan, donc ça fait aussi ce lien entre le canton et Zurich, qui est un des partenaires de ce projet. J'arrive à mon dernier invité, juste à ma droite, Verio Pini, qui est donc conseiller pour la politique linguistique auprès de la chancellerie fédérale. Et sa deuxième casquette, il aura l'occasion de nous en dire plus ensuite, qui est membre de l'association Conscienza Svizzera, qui mène des projets dont nous aurons l'occasion d'entendre plus sous peu. Voilà, ce que je vous propose comme programme pour cette table ronde, c'est trois blocs. Un premier bloc où on va tenter de se mettre d'accord, et j'ai beaucoup aimé l'introduction de Charles Baer. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme d'italianita ? Et j'ai ma foi l'intuition qu'il a peut-être eu raison en disant qu'il y avait une part de mystère autour de ce terme et que si on cherche à lever trop ce mystère, on pourrait se perdre dans des tensions, dans des conflits. Et au fond, ce terme, il arrange peut-être tout le monde. Je me réjouis d'en savoir plus sur cette question. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la définition, on fera un deuxième bloc de discussion sur le thème de la contribution. Je crois que ça sera un mot-clé ce soir. Quelle a été, quelle est la contribution des italophones, des Italiens, des Tessinois au projet suisse, à la collectivité de ce pays, aux gens qui vivent sur le territoire suisse. Et troisièmement, dans la troisième partie, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de l'expérience italienne pour d'autres groupes de migrants, de communautés migrantes, qui sont actuellement, pour beaucoup, un défi, pour certains, un problème, pour d'autres, une chance. Et ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre du cas, entre guillemets, de l'italianita pour faire des parallèles, ou peut-être justement pas, avec les défis qu'on observe actuellement au jour le jour. Voilà donc le programme de la soirée. À la demande des organisateurs, et je crois que c'est dans l'esprit de cette manifestation, on va essayer de faire ça le plus participatif possible. Après chaque bloc, si vous souhaitez intervenir, si vous avez une question de compréhension ou vraiment un commentaire assez court à faire, n'hésitez pas à le faire, levez la main, moi je vous vois et je vous passerai la parole. Et puis à la fin des trois parties de discussion, on va ouvrir une discussion un peu plus large. Si vous avez là des commentaires, des impressions, des idées, c'est le moment de les donner à la fin des trois parties. Et puis tout ça, nous sommes en Valais, c'est pas pour rien, tout ça se poursuit autour d'un verre dans une ambiance amicale et décontractée, comme le veut la tradition en tout cas. Et là, on vous invite bien entendu au nom des organisateurs à rester avec nous pour poursuivre la soirée. Voilà, j'espère que ce programme vous convient. Sans plus de transition, j'aimerais passer la parole tout d'abord à Madame Schapper-Wertner, qu'elle nous explique brièvement quel a été le chemin de cette italianita pour aller jusqu'au patrimoine. Merci. Quel a été le chemin de cette idée d'italianita jusqu'au patrimoine culturel immatériel, et nous raconter ce parcours assez passionnant, il faut bien le dire. Allez, mais juste là. Dans la série des clichés, je demande l'homme bricoleur. Très bien.
Voilà. Alors d'abord, quelques mots sur le contexte du travail de cette commission. Donc vous savez que le Conseil fédéral et le Parlement ont ratifié les conventions onusiennes sur la préservation du patrimoine culturel immatériel, protection et promotion de la diversité culturelle. C'était en août 2008. Le Conseil fédéral a mandaté l'Office de la culture de dresser un inventaire national qui devrait figurer sur la liste mondiale des particularités nationales, etc. Et l'Office fédéral, étant donné la structure de l'État confédéré, a mandaté les cantons. Les cantons ont nommé des commissions et le canton du Valais, par l'intermédiaire de M. Jacques Cordonnier, a désigné sa commission, constituée de membres des représentants des institutions culturelles valaisannes, avec la présence d'ethnologues qui sont considérés, paraît-il, comme des spécialistes de l'identité. Alors, maintenant, moi, ce que j'aimerais vous présenter, c'est en fait les réflexions qui ont mené à faire en sorte que cette italianita, elle soit représentative de la société valaisanne, finalement. Et quand je vois qu'on salue ça comme une provocation, dans notre travail intellectuel, c'était une chose qui allait de soi. Parce que, justement, et c'est ce que j'aimerais vous communiquer maintenant, on a fait tout un travail par rapport à ça. Et au cœur de ce travail, la question principale pour un inventaire, bien sûr, c'est la question de la représentativité. Et qui dit représentativité dit critères pour désigner des pratiques, les acteurs de ces pratiques, qui vont être considérés comme porteurs de cette représentativité. Donc vous voyez bien qu'on est déjà dans une question qui est très complexe et qui peut avoir des retombées politiques, justement. Alors nous avons déjoué deux pièges. Le premier piège en Valais, c'était le piège du marketing du terroir, le branding, hein, cette espèce d'adéquation qu'on fait entre une pratique et puis un territoire, au point qu'on a l'impression que tout naît du sol, qu'on est tous autochtones et donc authentiques. Donc on voit bien que c'est le piège, c'est le glissement vers une sorte de clôture identitaire. Ça, c'était le premier piège à déjouer, parce que ça occulte justement toute une dimension historique de la construction de ce qu'on appelle le Valais, toute une dimension conflictuelle. L'histoire valaisanne est lourde de conflits, de tensions, de débats qu'il n'y a pas à occulter. Et c'était le premier piège. Le deuxième piège, c'était un piège qui justement porte sur les niveaux où on utilise les mots. Des mots comme identité, culture, patrimoine, ce sont des idiomes politiques qui appartiennent à une rhétorique politique. Ce ne sont pas, pour les chercheurs, des catégories d'analyse. Alors, comment faire ? Notre fil rouge, ça a été d'essayer de faire comprendre une approche dynamique de ce que c'est finalement ce qu'on appelle la société valaisanne. C'est-à-dire qu'elle s'est constituée comme valaisanne, je mets des guillemets, ça ne va pas de soi, elle s'est constituée dans un processus de relation avec une longue histoire par rapport à la Berne fédérale, par rapport aux villes du plateau suisse, par rapport à l'Italie, par rapport à la France. Il ne faut pas oublier qu'on a été département du Simplon grâce à nos deux cols, Grand-Saint-Bernard et puis col du Simplon. On a été annexé. Donc, le choix de l'Italianità a été fait dans cette perspective. Donc, évidemment, c'était d'emblée pour nous un terme ambigu. Parce que Italianità, c'était d'abord pour nous un outil intellectuel pour faire pièce à Valaisianità et puis ce risque de culture identitaire. Donc, c'était un outil intellectuel d'abord. Et puis ensuite, c'était une réalité historique. Dès le XIIIe siècle, des marchands milanais ont demandé à l'évêque de Sion d'améliorer la voie du col, du Simplon, parce qu'ils voulaient, dans le grand élan d'économie de marché qui s'est amorcé au XIIIe siècle, ils voulaient avoir accès aux foires de Champagne, à la Flandre. Enfin, c'était vraiment tout un grand courant de marché qui se mettait en place. Ensuite, à partir du XVe siècle, les artisans venus du Piémont ont apporté à la société valaisanne, qui était essentiellement paysanne, formée de juristes et le clergé, bien entendu, ont apporté tout un savoir-faire artisanal du bois, du cuivre, de l'étain, de la pierre, architectes, peintres et décorateurs d'églises. Tout cela se voit. Et ce savoir-faire, il est dû justement à cette présence italienne. Ensuite, au XIXe siècle, après, bien sûr, les barrages, les tunnels, etc., si bien que tout un ancrage s'est fait dans la société valaisanne, sociale, culturelle et historique. Et ça allait de soi, donc, pour nous, que l'Italianità était véritablement représentative. Alors maintenant, il fallait, et je vais conclure avec cela, il fallait que, pour faire accepter dans l'inventaire national, il fallait que notre dossier réponde aux critères onusiens. Critères onusiens extrêmement rigides. Et alors, il a fallu véritablement ruser. Il a fallu prouver que... et retourner, en fait. Alors, évidemment, quand on voit écrit en tout petit les traditions vivantes des groupes migrants sont les bienvenus, on ressort et on écrit en grosses lettres. Donc, il y a la question de la mobilité sociale. Ensuite, il y a la question de l'ancrage dans la longue durée. Bon, c'était la preuve est faite. Et puis, il fallait aussi une continuité sur plusieurs générations. Et puis, voilà. C'est ce qui a fait que pour nous, ça allait de soi, que l'Italianità est représentative de cette société valaisanne. Et maintenant, juste pour conclure, évidemment que nous voilà un peu embarrassés. D'abord, parce que Italianità, c'est aussi ambigu que Valaisianità. On risque de nouveau de tomber dans des sortes de dérives à force de trop d'implicites, des sortes de dérives essentialistes, des non-dits, justement, soit romantiques, bien-pensants, mais c'est de nouveau une sorte d'essence, au détriment de tout ce qui est processus un peu relationnel, dynamique, historique, de contact et de réseau. Et puis, en même temps, et je finis avec ça, on a une sorte d'exemplarité, bien entendu. L'Italianità est exemplaire. Mais exemplaire de quoi ? Elle est exemplaire, et c'est ce que nous avons voulu, du processus de constitution d'une société valaisanne. On aimerait bien que ces réflexions se reportent sur le plan national. Ce serait exemplaire dans ce sens-là. Et puis, le deuxième point, et là, justement, c'est ambigu, exemplaire, alors ça risquerait, puis c'est Nelly en discutant avec vous, justement, que cette ambiguïté est apparue, exemplaire, c'est-à-dire qu'on risque de créer une catégorie de migrants modèles, les Italiens, nos chers Italiens, hein, et puis de nouveau de faire ressurgir alors une catégorie de migrants à problème. Alors voilà. Donc je pense que la discussion, il faudrait se mettre d'accord sur les mots qu'on utilise, les enjeux qui sont derrière les mots, aucun mot n'est innocent. Italianità non plus et Valaisianità non plus. Voilà.
Merci beaucoup. On en avait discuté avant, donc pour elle, ça ne va pas être une surprise. La mission de mettre de l'ordre dans tout ce qu'on a entendu revient logiquement à une des chercheuses autour de cette table. On a entendu beaucoup de mots-clés dans le plaidoyer très engagé. Tradition vivante, normalement c'est bon, tradition vivante, représentativité de la société actuelle, les migrants modèles. Comment mettre de l'ordre dans ces différentes dimensions pour qu'on puisse, pour la discussion de ce soir, avoir un mot sur lequel on s'entend plus ou moins et on puisse avancer.
Et ça en 3 minutes. Non, tout d'abord, j'aimerais bien remercier les organisateurs, non seulement pour m'avoir invité, mais surtout pour avoir partagé en deux cette soirée qui a permis, à mon sens, de mettre déjà au clair le fait que l'italianité n'est pas seulement un terme, une notion, un concept, mais c'est un récit. Et c'est ça qui est l'aspect très important pour moi. On l'a vu aujourd'hui avec des présentations que j'ai beaucoup appréciées et qui ont déjà mis en avant toute une série d'aspects de ce récit de l'italianité qui changent dans le ton, qui sont très subjectives, mais qui ont aussi des éléments objectifs à prendre en compte, c'est-à-dire une évolution historique. Et ça me fait tout de suite retomber dans le deuxième aspect, qui est celui de l'historicisation d'un concept. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de l'italianité, mais j'ai rencontré l'italianité, disons, pendant toutes mes recherches autour des intellectuels et des rapports Italie-Suisse. Et je pense que l'historicisation d'un terme, déjà le fait que c'est un terme assez nouveau, en effet, dans son utilisation, celle que l'on fait aujourd'hui. Je dirais que c'est un terme qui commence à être utilisé dans ce sens depuis les années 80, mérite d'être évoqué juste pour, disons, mettre quelques jalons qui pourraient être utiles par la suite dans une définition consensuelle de cette italianité, avec, à mon sens, tous les problèmes qui viennent d'être évoqués et qui vont rester. Parce que, bien sûr, italianité, maintenant, c'est quand même politiquement correct. Donc, c'est clair que cela pose un problème. Alors, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de déjà rappeler que italianité, comme une bonne partie de ces concepts, est un concept qui naît autour des États-nations, et donc de cette idée au XIXe siècle, voilà, de mettre en place toute une série d'identités nationales. Et ceci est très important puisqu'on a cette ambiguïté qu'on vient d'évoquer autour aussi de la Suisse italienne. Suisse italienne aussi est un concept qui va être mis en place, disons, créé en cette période, et qui va poser par la suite un problème de tension que je ne vais pas évoquer ici, autrement on va passer une semaine, mais justement un problème de tension entre cette italianité de la Suisse italienne et une italianité qui est interprétée dans le sens plus large, c'est-à-dire une appartenance à une civilisation, à une histoire, à une culture, à une langue, mais surtout une conscience d'appartenance à une nation malgré tout qui est l'Italie. Alors c'est vrai que les nouvelles recherches en sciences sociales insiste beaucoup sur le fait que la culture est quelque chose qui sort des frontières nationales. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, on se réfère tout le temps à des frontières nationales lorsqu'on parle d'italianité. Donc, et puis, on ajoute un peu comme ça la Suisse italienne, parce qu'il faut l'ajouter. Mais bon, voilà, c'est tout à fait normal, ce n'est pas une polémique. C'est pour comprendre un peu cette dynamique qui n'est pas facile. Et c'est une italianité qui se développe à fur et à mesure que les frontières sont reçues et perçues. Matteo Terzaghi l'a évoqué avec une belle narration aujourd'hui, différemment. Et les rapports aussi entre les nations sont différents. L'italianité pendant le fascisme était bien différente, était perçue différemment en Suisse, et l'italianité suisse devait être une culture italienne apolitique, et donc avec toute une série de problèmes qui se posaient. Avec l'arrivée de l'immigration de masse, une autre italianité se met en place. Alors maintenant, comme ma collègue vient d'évoquer, le groupe d'immigrants italiens devient exemplaire. Néanmoins, il faut rappeler que pendant pas mal d'années, de décennies, même presque un siècle, je dirais, c'était vraiment un groupe qui posait problème.
et il faut le rappeler. Et donc, ce n'était pas une italianité si facile que ça. Néanmoins, au moment où les immigrés arrivent en Suisse, il y a un débat très fort qui se fait, qui est très intéressant, qui veut qu'en quelque sorte, les Italiens en Suisse devraient pouvoir, disons, aider ou soutenir la minorité italienne de la Suisse. Et que donc, il y aurait une italianité suisse qui dépasse, disons, le périmètre du canton du Tessin et des vallées grisonnes. C'est un débat qui est très important, qui se fait à niveau scientifique, mais qui se fait aussi à niveau politique et qui revient régulièrement. Je dirais qu'on a un peu perdu cet aspect puisque bon, l'évolution de l'immigration nous amène à d'autres considérations. Mais en ce moment-là, où l'italien était aussi, on vient de l'évoquer ce matin, la lingua franca, c'était quand même un aspect très important. Et puis, il y a un autre moment clé, à mon sens, qui permet aussi de prendre en considération les politiques de l'Italie. Ce sont les années 80. Alors, il faut dire qu'à partir des années 80, on a des politiques publiques et des politiques culturelles privées, des grandes entreprises, par exemple, qui développent toute une série d'interventions à l'étranger autour de la culture italienne. Et qu'à partir de là, moi, j'ai un peu, disons, résumé entre du risorgimento à la pizza. Donc, d'une question politique, idéologique, à une question de marque, de brand, et donc économique forte, mais qui a des influences aussi sur la perception de l'italianité à l'étranger. Et donc, je pense que, là, comme vous voyez, je n'ai pas donné une réponse, mais je pense qu'il faut prendre en considération tous ces aspects afin de comprendre, ou au moins de ne pas entrer dans une idée figée d'italianité, de comprendre que c'est un concept en évolution, qu'on peut bien l'intégrer dans une réflexion politique, c'est tout à fait, c'est même souhaitable, je dirais, mais en même temps, c'est quelque chose qui change tout le temps. Et c'est ça qui me paraît important à mettre en évidence. Et pour terminer, comme je disais, on l'a vu très bien, si vous avez suivi les présentations d'aujourd'hui, on a vu que la nouvelle immigration n'a absolument pas la même idée d'italianité que la vieille immigration. Et cela nous ramène à la question des rapports sociaux. Mais là, je m'arrête. Voilà.
Merci beaucoup. Sur cette double dimension, je crois que c'est un élément important pour notre discussion ce soir, l'italianita tessinoise comme partie intégrante du projet suisse et l'italianita italienne, j'aimerais bien vous entendre, Monsieur Pini. Qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette double dimension? Et c'est quelque chose simplement qu'il faut qu'on accepte, on va continuer à vivre avec, et pour la discussion, il va falloir qu'on distingue le plus possible, ou est-ce qu'au contraire, il faut tenter de les mettre ensemble, même si c'est un peu artificiel?
C'est déjà bon? Oui. Alors là, vous me mettez un peu dans une situation difficile. Puisque en écoutant avec grand intérêt à la fois Madame Balzangiacomo et la dame qui a précédé, je voulais avant tout moi aussi remercier et applaudir en quelque sorte à ce débat, à cette thématique, justement à cause de l'accent que vous avez voulu mettre entre autochtones et allochtones. C'est un point dans lequel on s'est souvent retrouvé à niveau de discussion, soit peu que je peux dire comme observateur dans le cadre, disons, plutôt du plurilinguisme institutionnel, à la fois en participant aux travaux de l'intergroupe parlementaire, à la fois tout simplement par le biais de ma fonction actuelle dans la politique justement du plurilinguisme institutionnel de la Confédération, et tout récemment, de 2012 à 2015, en ayant l'opportunité de coordonner une recherche très intéressante, avec Coscienza Svizzera, chapeautée par l'Office fédéral de la culture, sur ce qu'on a appelé une redécouverte de l'italianité en Suisse. Ça, c'était, l'objectif initial. Nous voulions faire un tout petit peu un état des lieux, une sorte de photo sur la vitalité de l'italianité en Suisse, par le biais de moyens très simples et très, je voudrais dire, artisanaux. Donc, toute une série, une trentaine d'interviews sur le terrain, après avoir bien réfléchi aux choses et choisi à dessein un certain nombre de personnes. là, en collaboration avec l'Institut de sociologie de Genève, M. Katachin, Mme Rosetta Philby, donc des spécialistes et des connaisseurs à la fois de problèmes sociolinguistiques et de migration, immigration, et Irene Pellegrini, une autre sociolinguistique italienne. Eh bien, je commence peut-être par le deuxième aspect, en disant tout simplement que le constat qu'on a fait tout au long de cette belle aventure, c'est justement que, si vous voulez, la communauté italienne, ou définissons-la comme vous voulez, italianité, dans notre groupe, Coscienza Svizzera, il y a même ceux qui défendent de plus en plus la notion, et là je vais être un tout petit peu un trouble fait, de italicità, notamment M. Rémi Giorati, qui... Italicità, qui donne là un espace tout à fait privilégié à la position défendue par Piero Bassetti, Fondation Globus et Locus à Milan, qui justement porte un tout petit peu cette idée d'Italicità dans le monde. Là, c'est cette dimension un peu difficile à définir, mais qui va bien au-delà de la langue, de l'italophonie, mais c'est tout un style de vie, tout un ensemble d'éléments qui essayent de placer l'italicité, justement, l'italicità, dans le monde globalisé. Mais bon, ça, c'est un aspect. Je reviens au constat, un des constats, puisqu'il y en a énormément aujourd'hui en écoutant Fabrica Azzurri ou en écoutant les témoignages, j'ai retrouvé tous les réflexes qu'on sent, qu'on trouve, qu'on constate en parlant avec ces gens. Dans les interviews, il y a toute une sorte de filigrane dans laquelle il y a à la fois des problèmes individuels, familiaux, identitaires, etc. etc. Il y a une merveille, un florilège de témoignages que vous allez découvrir bientôt puisque le livre est sous presse et va sortir au mois d'octobre. Mais, et là je reviens, peut-être je suis un peu long, mais je reviens sur ce constat. Pour nous, pour cette enquête, le constat était à la fois statistique et sociolinguistique. Donc il n'y a plus d'autochtones à l'octone. On constate qu'il y a un 35%, nous dit l'Office fédéral de statistique, qui a un passé migratoire, qui, selon un petit livre qui est un bijou en soi de Philippe Venner, une Suisse à 10 millions d'habitants, qui nous donne, disons, des éléments statistiques sur 10 ans en observant la migration interne. On constate que la mobilité entre la Suisse italienne traditionnelle géographiquement, le canton des Grisons, le canton du Tessin, et cette diaspora qui s'est là aussi, qui a accompagné le mouvement immigratoire italien dans les années 50, 60, mais bien avant, mais en fait quantitativement aussi dans les années 60, 70, etc. Peu à peu s'est formée une sorte d'entité, une communauté nationale qui est en fait à un élément original, si vous voulez, d'italianité, d'italophonie, d'affinité, de sympathie pour l'italien et la culture italienne, mais en réalité est devenu quelque chose d'autre. Il a assumé une identité multiple, très enrichissante, très intéressante, faite de diversité, dans laquelle coexiste sans aucune difficulté, de manière très spontanée, l'italien, les patois de toute l'Italie, le patois tessinois, l'allemand, le français, dans un va-et-vient formidable qui s'est accentué dans les années 80, 90 et surtout la dernière décennie. Donc, mobilité, plus origine, plus possibilité de vivre des identités multiples. Voilà, c'est un cocktail un peu détonnant, mais qui fait la substance et l'intérêt du mot diversité que vous avez très bien souligné en évoquant la Convention et qui a, ma foi, qui a multiples conséquences. Je ne veux pas peut-être entrer là dans les détails, ça va revenir dans la deuxième partie, la troisième partie de votre débat, mais il y a des conséquences très importantes. Je vais dire tout simplement deux mots. La territorialité, avec la déterritorialisation, en fait. Hein, il n'y a plus cette belle idée avec laquelle on défendait la territorialité et notre politique linguistique. Première chose. Deuxième élément, une autre priorité dont on va certainement parler, celle de l'enseignement des langues.
Très bien. Merci beaucoup. Oh. Je me propose d'introduire une règle, ce n'est pas très fair play pour ceux qui n'ont pas encore été applaudis. si ça vous va, on applaudit une fois à la fin. À moins que vous ayez vraiment quelque chose qui vous paraît extraordinaire, vous voulez le signifier en tapant des mains, n'hésitez pas. Je tente un très difficile exercice de se concentrer sur les éléments que j'aimerais qu'on prenne avec nous pour les autres parties. Cette double identité, Tessin italien en Suisse, donc cette double tension d'Italianita, avec mention qui a été faite d'une entité nouvelle qui serait en train de se créer, où ces distinctions ne sont plus aussi importantes, mais on se retrouve dans quelque chose qui est nouveau, et qui m'a fait écho à ce que vous avez dit. Le concept d'Italianita semble s'être un peu dépolitisé pour aller vers quelque chose qui ressemble à une façon de vivre, un art de vivre, les côtés très positifs de l'italianité. Et c'est peut-être ça, les points de cette nouvelle entité. On se retrouve dans un certain art de vivre, une certaine langue, une certaine culture. Et ça pourrait être les piliers de cette entité nouvelle qu'on appellera Italianita. Et on retient aussi, ça je pense c'est important qu'on prenne avec nous, que le concept évolue clairement au cours de l'histoire. Il est aujourd'hui positif, il n'a pas toujours été. Le concept lui-même est la réalité vécue par les Italiens dans le pays. Si on est d'accord, on peut se mettre, trouver un pseudo-consensus sur cette définition. Comme ça, on sait à peu près de quoi on parle quand on parle d'Italianita. Et on essaye... Ah, bah, Ada, vous allez tout de suite avoir la parole, donc c'est magnifique. Pour passer à... le deuxième bloc, alors Ada va revenir sur la définition. Dans mon deuxième partie de discussion, j'aimerais mettre l'accent sur le terme de contribution. À parcourir les différents documents qui traitent de cette histoire valaisanne, on retrouve cette idée de contribution. Les Italiens de tout temps, et on nous a montré que l'histoire remonte loin, ont contribué à la vie en société, sont devenus des parties intégrantes de cette vie en société. Et j'aimerais vous entendre sur cette idée de contribution. Est-ce que là, on n'est pas justement dans quelque chose qui a été surpositivé ? On a complètement effacé les aspects conflictuels pour retenir seulement les apports, les contributions positives. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce terme de contribution ? Est-ce qu'il permet de tout dire de la réalité italienne, italophone en Suisse ? Et là, Ada, en étant membre de ce groupe interparlementaire, je pense que vous pouvez aussi amener la dimension politique qui tourne autour de ce concept.
Je ne pouvais pas m'inviter Addolorata Marra puis me faire passer à la contribution sans parler de l'identité de cette Italianita. Simplement parce que je suis complètement schizophrène. Je pense que c'est la pire invitation politique qu'on ait faite de ma vie. Je vous remercie. Parce qu'au fond, comme fille d'immigrée italienne, pour moi, l'italien à la base, c'est l'Italie. Parce que je suis née avec l'italien, mes parents italiens, etc. Petite anecdote, quand on allait dans les Pouilles avec la voiture à l'époque, là, on mettait 15 heures sans air conditionné, on passait par le Grand Saint-Bernard, moi je viens de Lausanne, on habite à Poudet, et on passait par Martigny, et pour moi, le Valais, c'était l'Italie déjà. Donc quand j'ai passé mon examen de naturalisation, on m'a demandé de donner les cantons autour du canton de Vaud, je n'ai pas dit le Valais, puis on m'a dit, mais mademoiselle, le Valais. Puis moi, j'ai dit, mais c'est l'Italie. Donc, c'était vraiment... Mais vous voyez comment on brade le passeport suisse, monsieur adore. Eh bien, voilà, j'ai quand même eu la naturalisation helvétique. Donc, je voulais simplement dire que cette idée de territoire, pour reprendre quand même cette idée de territoire, on ne peut pas... Parce que je comprends, effectivement, alors je dois parler comme casquette fille d'immigrée italienne, mais je dois aussi parler surtout comme groupe interparlementaire Italianita au Parlement. Il y a cette idée de sortir, justement, comme vous avez très bien dit, l'italien de la Suisse italienne des grisons. Mais moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Quand on est venu, il y a une dizaine d'années, me parler de ça, j'ai dit, mais parce qu'il voulait ouvrir aux Italiens la langue italienne. Je dis, mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas la même chose. Quand vous êtes Tessinois, vous êtes Suisse, vous avez des droits, vous avez une assurance socio-économique, politique et civique. Quand vous êtes Italien et que vous arrivez en Suisse, la première chose, ce n'est pas de sauver la langue italienne, c'est d'apprendre la langue sur place. La première chose, c'est qu'on vous interdit, encore aujourd'hui, j'ai des exemples d'Italiens dans des lieux, on vous interdit de parler entre vous la langue italienne, quand vous êtes Italien immigré en Suisse. Donc, on n'a pas le même rapport. On ne peut pas avoir le même rapport. Je comprends l'idée, et là, on parle de la contribution, parce que je pense qu'elle est essentielle. C'est le combat d'une minorité en Suisse de faire vivre une culture. Parce que même si Tessinois est ou Grison, etc., des Suisses qui parlent italien ou des Italiens en Suisse, c'est faire vivre une culture. Et ça, ce qui est très étonnant, moi j'ai parlé avec des jeunes dans toutes ces histoires de, des événements qu'il y a eu en Suisse par rapport à l'italien, il y avait des gymnasiens, ils avaient des idées super pour dire mais comment faire vivre l'italien comme langue de cohésion en Suisse, par exemple dans des annonces au CFF, dans les trains, en italien aussi. Bon, ça nous en fera une quatrième, c'est déjà assez long, mais enfin, voilà, des choses en disant bah, les CFF, c'est quand même représentatif de l'Helvétie, donc il faut aussi parler l'italien. Voilà. Maintenant, il y a un travail extraordinaire, ce groupe, et je finis très court, de ce groupe interparlementaire Italianita. Il y a le lobby au sein du Parlement pour faire prendre conscience aux collègues que l'italien existe. Parce que je peux vous dire qu'au Parlement, quand vous allez parler en allemand devant le Parlement, il y a du bruit. Quand vous parlez français, le volume sonore augmente. Mais alors, quand vous parlez italien, il n'y a plus personne qui vous écoute. Ça, c'est clair. Les hauts fonctionnaires qui parlent italien ou français, vous oubliez, quand vous êtes dans une commission, que vous faites des auditions, c'est l'allemand, l'allemand, l'allemand. Alors, il y a effectivement des efforts, des lois, etc. qui sont faites, mais la réalité, c'est que l'italien, au sein même de l'institution, est encore une minorité. Et j'en conclue par ça pour dire l'apport, pour moi, l'apport principal, c'est de faire, et vous en avez parlé vous aussi, c'est la diversité, c'est de faire comprendre que l'identité suisse est plurielle. Parce que même dans l'identité italienne, elle, enfin, italianita, elle est plurielle. Donc je pense que c'est un grand apport politique et social dans un contexte, je dois dire, politique très difficile.
Adamara, juste une question encore. Est-ce que vous croyez à cette identité nouvelle qui joindrait les deux? Ou est-ce que là, on est dans le fantasme?
Je pense qu'on est dans un monde globalisé, puis que les jeunes, aujourd'hui, finalement, ils parlent anglais, ils parlent... à la guerre des langues. C'est l'école qui a cette responsabilité de cohésion nationale et qui finalement peut faire cette jonction, mais dans la pratique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et on jongle avec 3, 4, 5 langues parfois. Je pense qu'on peut y arriver institutionnellement, mais dans la réalité, elle se vit de manière encore plus large.
Concrètement, dans le groupe interparlementaire, il y a des discussions, parfois des tensions entre le groupe tessinois et le groupe italien d'Italie?
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je disais, c'est une minorité. Et dans cette minorité, il y a un combat.
Donc c'est la sensation d'être une minorité qui rassemble les gens.
Par rapport à la langue, par rapport aux problématiques, il y a un autre groupe qui s'appelle groupe d'amitié Suisse-Italie. Il y a des 5 groupes au niveau parlementaire. Le grand défi, c'est de faire sortir les thématiques tessinoises parce que le rapport à l'Italie dans cette délégation s'est beaucoup défini à travers les problèmes réels qu'il y a eu entre le Tessin, enfin, la Suisse et l'Italie, et de faire en sorte que justement le concept groupe d'amitié Suisse-Italie sorte du Tessin mais devienne une problématique suisse.
Monsieur Pigny, vous voulez réagir? Je vous ai vu lever la main quand on a parlé des tensions dans le groupe interparlementaire.
Oui, juste une nuance qui est tout à fait correct, évidemment, ce que dit Madame Marra, dans le sens que c'est des bonnes volontés autour d'un problème. Donc, tout le monde est d'accord dès qu'il y a un certain nombre de, disons, de principes importants à défendre. Il y en a. Il y a pas mal de choses qu'il faut défendre. Il faut même tout simplement sensibiliser et informer les collègues, n'est-ce pas, à niveau parlementaire. Mais je pense qu'il y a quand même des points dans lesquels rapidement, on peut retrouver des tensions entre les deux dimensions, autochtones, allochtones, même si c'est des divisions un tout petit peu artificielles et idéologiques ou définissez-les comme vous voulez. Mais
il nous faut un ou deux exemples.
Je vous fais un exemple. Bientôt, il va falloir décider de quelle manière utiliser des fonds supplémentaires que les parlementaires ont votés avec le message sur la culture. Il y a 1,2 million en jeu pour l'enseignement de l'italien en dehors du territoire de la Suisse italienne traditionnelle. Eh bien là, bien évidemment, il y a plusieurs recettes. On a déjà entendu les avis des uns et des autres. On ne sait pas encore quelle est la synthèse que l'Office de la culture va faire et quelles sont les propositions qui vont venir. Mais je pense que là, il va y avoir inévitablement quelques tensions, quelques malentendus à clarifier de manière à trouver un consensus de base intéressant, peut-être pas, peut-être aussi une synergie utile et fertile d'un côté entre les instances cantonales qui sont responsables de l'enseignement des langues au niveau primaire et secondaire, et pourquoi pas les entités, les associations qui nous offrent, puisqu'ils offrent soit à des italophones, des Italiens, la possibilité de suivre des cours de langue et de culture à niveau primaire, et cette possibilité qui est difficile et niée pour le principe de territorialité dans certains cantons, en profite aussi une partie non négligeable de Suisses, de jeunes Suisses, de jeunes Tessinois probablement d'origine, qui ont seulement cette possibilité à niveau de l'école primaire. Donc là, il y a évidemment des terrains de synergie, mais aussi de tensions potentielles.
Très bien, je me tourne vers Sarah Bonavia pour avoir votre impression sur cette idée de contribution des Italiens en Suisse. Vous avez une association qui représente la nouvelle génération. Ça serait peut-être intéressant que vous nous disiez qui sont, où font ces gens, qu'est-ce qu'on a comme profil, qu'est-ce qu'on a comme parcours de vie, et puis quelle est, à votre avis, si on peut généraliser, leur contribution au projet suisse, et est-ce que ça se laisse intégrer dans cette idée d'Italianita?
Bah, c'est un peu complexe. Hein. Moi,
qui sont les gens dans l'association, en commençant
oui,
comme
ça? Je vous remercie de m'avoir invité et que vous êtes intéressé à nouvelle immigration italienne. Et merci aussi à Lisa Pedicino pour ça. Donc l'association, donc, je peux vous faire une petite introduction sur moi, en moi-même, auberge l'italienne, la tessinoise, la suisse-allemande. Et j'ai aussi été une immigrée suisse-italienne en Espagne pendant 10 années. Donc, j'ai toute une...
Ça fait un gros dossier.
Ça fait un peu un dossier, oui, parce que j'ai habité en Italie plusieurs fois, et en Tessin, et ma mère est suisse-allemande de Emmental. Donc, et là, ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est évidemment la partie suisse. Et c'est pour ça aussi que je peux parler plusieurs langues, parce que j'ai eu la possibilité d'être en Suisse. Et je suis très orgueilleuse de la partie italienne et de la contribution que l'italianité peut donner en Suisse. Et personnellement, toujours que je pensais à quand je suis arrivée en Tessin, que j'avais 10-11 ans, et je me suis rendue compte que les Suisses françaises et les Suisses allemandes n'avaient pas l'italien comme langue obligatoire à l'école, mais nous, oui, l'allemand et le français. Donc moi, après un moment, je me disais, ben, c'est eux qui le perdent. Mmh. Non, parce que c'est une richesse. Donc ça, c'est mon point de vue comme au niveau personnel. Et au niveau de la Fabrica de Zurigo, je trouve très intéressant aussi, après avoir aussi étudié ce qui était l'immigration italienne dans les années 60, 70 et aussi avant, hein, au début du siècle, et maintenant voir le retour de l'immigration italienne qui est plutôt comme l'espagnol aussi, parce que je suis aussi en contact évidemment avec les Espagnols immigrés. C'est triste. C'est-à-dire que c'est eux, ils sortent de l'Italie parce qu'en Italie, les choses ne fonctionnent pas. Donc, ils essayent de faire leur mieux en arrivant en Suisse, d'avoir une opportunité de travail. Ils rejettent, comme vous avez entendu aussi dans les interviews, la majorité, le terminus immigrant. Et ils acceptent, bon, Zurich c'est une bonne ville, c'est une ville avec une haute qualité de vie et tout ce cas, mais ils ont vraiment beaucoup de problèmes à s'intégrer dans la ville. Et moi, bon, je suis là aussi pour intérêt personnel et pour faire de liaisons. Je sais pas, c'est... trouver cette liaison entre les Suisses et les Italiens, même dans la Suisse alémanique. Et d'avoir, de connecter, parce que moi, j'ai vécu à Barcelone pendant 10 années, et j'ai vécu dans des endroits qui m'intéresse personnellement beaucoup, qu'il y a la rencontre de plusieurs cultures, de plusieurs identités. Je trouve extrêmement intéressant ça, c'est très enrichissant, sans perdre la propre identité. C'est à moi... Je continue à dire que je suis suisse, italienne, tessinoise et même catalane, presque. tu sais. Et donc, je ne sais pas, c'était, je sais pas si j'ai répondu à la question.
Les gens que tu côtoies dans l'association, quand on parle de contribution, dans le discours politique, j'ai l'impression qu'on parle souvent de contribution économique. Les gens viennent travailler, on a besoin de force de travail. J'imagine que ça va beaucoup plus loin pour les gens eux-mêmes. Ce n'est pas seulement une contribution économique, c'est une contribution sociale.
Bon, à la fabrique, oui. Pas toutes les nouvelles générations rentrent déjà dans ça. C'est plutôt une nécessité personnelle. Mm-hmm. Mais dans la fabrique, ce qu'on essaye, c'est de donner une contribution à la ville en tant qu'Italien et pas seulement en ouvrant un resto italien ou une pizzeria. Non, c'est-à-dire, c'est essayer de chercher un échange. On organise une fête qui s'appelle la fête des Zurichoises et des Zurichois, qui est chaque 2 ans, là proche de la Langstrasse. Et c'est le lemma, c'est que tout le monde se doit sentir Zurichois. C'est pas celui d'être suisse, italien, espagnol, arabe, c'est quoi, mais c'est de sentir appartenant dans une ville, dans un territoire. Et après, on a l'identité, mais je trouve assez intéressant. Moi, je suis là depuis un an et un an et demi à Zurich, donc je suis en train d'observer, de voir la nouvelle Suisse, la situation comme elle est actuellement. Zurich a changé beaucoup dans les dernières 10 années.
Ça, c'est la Suisse plurielle dont parlait Adamara,
ouais,
qui est exactement représentée là par les membres de cette association. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ces gens, quand ils arrivent, se sentent le plus vite possible à l'aise dans une ville comme Zurich ? Est-ce que là, vous parliez de ce travail de transmission, de contact, de mise en réseau ?
Ça vient d'une partie et de l'autre. C'est-à-dire, les Italiens, il faut qu'ils aient fait... Zurich, il y a un problème dans la globalisation que parlais avant, c'est que c'est une ville où dans beaucoup d'endroits de travail, on parle anglais. Donc ils ont des fois pas trop motivés à parler la langue locale. Je ne dis pas le suisse allemand, aussi le suisse allemand, mais c'est aussi l'allemand. Beaucoup d'eux ne sont pas motivés à apprendre l'allemand. Ça arrive après 5, 6, 7, même 10 ans qu'ils sont là, mais peut-être je devrais apprendre l'allemand, quoi. Et ça, c'est déjà un point d'intégration important. Et maintenant, vous devez aussi faire votre part. De l'autre partie, dans l'école, on parlait que dans l'école, on a beaucoup perdu l'italianité. C'est-à-dire que les Suisses, avant, ils n'avaient quand même pas l'obligation, mais la possibilité de parler l'italien s'ils voulaient à l'école. Maintenant, ça, j'ai l'impression que c'est un peu perdu. Et donc, ils s'ouvrent moins dans une identité qui fait partie de la nation suisse.
Encore une question. Est-ce que c'est un hasard que ça ait lieu dans une ville ? Que l'espace urbain, ça soit le lieu de cette nouvelle Suisse plurielle ? Que ce ne soit pas la Confédération, ce n'est pas les cantons, c'est les villes qui vont être vraiment les pionniers pour accompagner cette Suisse plurielle.
Ça, je ne m'en doute pas parce que... Je crois que la situation zurichoise est très différente de la campagne de Schwyz ou de Thurgau.
Nelly, je vous ai vu réagir. Vous voulez réagir là-dessus ?
Mais ce sont un peu les géographes ont bien étudié ça. Ce sont les nouvelles frontières, les villes. Les frontières nationales sont en train d'évoluer. Voilà. Et puis, il y a toute une série de nouvelles frontières, c'est très intéressant cette idée de l'identité locale qui est en train de se mettre en place même à ce niveau. Donc voilà, c'est les nouvelles frontières qui se mettent en place avec des nouvelles identités et avec des nouvelles interactions.
Excellent. Domenico, je viens vers vous avec cette idée de contribution également là. Alors là, vous connaissez parfaitement bien la réalité valaisanne. Vous avez accompagné plusieurs projets sur l'histoire de ce canton, l'histoire des contributions des Italiens dans le canton. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot de contribution en lien avec l'italianité ?
Alors, innanzitutto, se mi permette, io parlo italiano.
Sì, vous m'avez averti.
Parlando dell'italianità. E dagli interventi che mi hanno preceduto, faccio una considerazione perché credo che ci sono due livelli di discussione che sono venuti fuori. Una è quello del perché è nata questa idea di italianità, secondo quanto ha detto la signora Chappaz, e su quello possiamo dire, e poi risponderò col che cosa intendiamo noi come contribuzione rispetto a questa idea che poi è stata ritenuta e proposta nell'ambito del patrimonio delle proposte per l'UNESCO. Però è venuta fuori anche una discussione sull'italiano, sull'insegnamento, su questo gruppo dell'italianità che c'è al Parlamento, sulle difficoltà anche che sono problematiche dell'oggi rispetto a scelte del cantone che privilegiano l'inglese anche rispetto al francese, e che è tutta una discussione in itinere che deve avere delle soluzioni politiche indubbiamente, e questo spetta ai politici trovare le soluzioni giuste. Ma questo non allontana, non cambia i dati del discorso sull'italianità come concetto che noi vogliamo iscrivere come patrimonio culturale e materiale, perché è legato a tutta una serie di valori, certamente alle grandi masse, per quanto riguarda gli italiani in Svizzera, alle masse di i cittadini, di lavoratori che sono arrivati qui a partire subito dal primo dopoguerra fino agli anni 80-90, poi c'è stata l'inversione. E poi va legato anche, a parte questa loro scelta, questa loro necessità più che scelta, dovuta a trovare soluzione a tutta una serie di problematiche economiche, quando sono arrivati qui sono anche portatori di valori, hanno portato dei valori, dei saperi, del saper fare, e lo hanno interpretato anche in maniera, devo dire, visto i risultati che si hanno dopo 50 anni, e questi riconoscimenti che non sono solo del Vallese, perché i rapporti che ci sono anche in altri territori della Svizzera rispetto agli italiani che sono arrivati qua, all'emigrazione italiana, usiamola questa parola perché di questo si tratta, sono dovuti, non ce ne è stato regalato niente in effetti, è stato riconosciuto perché c'è stato impegno, sacrificio, correttezza, puntualità sul posto di lavoro, che sono valori anche della realtà svizzera, quindi hanno acquisito, quindi c'è stato un interscambio culturale, interculturalismo è anche questo, quindi c'è stato questo scambio, non è solo che hanno gli spaghetti, abbiamo portato gli spaghetti, la pizza, tutto. Sono anche queste cose che hanno creato una nuova figura di italiano, di svizzero, in questo caso io ho chiamato qui vallesiani, vallesani e italiani, che ha portato attraverso tutti questi anni, pensate che sono passati più di 4 milioni di italiani qua in Svizzera, in questa mobilità di andare e tornare, questo lo dicono anche le statistiche, che in Svizzera oggi ci sono più di 300.000 italiani, italiani come passaporto, ma ce ne sono più di 700.000 se consideriamo quelli che hanno preso il doppio passaporto. Quindi è una realtà importante che va oltre la realtà specifica che è legata alla storia della Svizzera, che è il Canton Ticino. E quindi di questo dobbiamo tenerne conto, va tenuto conto indubbiamente. Io non vedo una grande contrapposizione tra la definizione autoctona e alloctona, ma una complementarietà tra queste due situazioni. Perché sulla difesa dell'italiano, se si pensa all'intervento che ha fatto lo Stato italiano a partire dal 1971 con l'emanazione della legge per l'istituzione dei corsi di lingua e cultura italiana, ogni anno in Svizzera frequentavano questi corsi, io allora ero a Zurigo in una scuola italiana come professore e come preside, c'erano 42.000 alunni, sto parlando degli anni 70, fine anni 70, primi anni 80, che frequentavano il mercoledì e anche il sabato all'epoca questi corsi. È un contributo importante all'apprendimento, allora si diceva nella legge, difesa dell'identità culturale e apprendimento della lingua italiana, per non perdere questi valori di appartenenza. Anche lì si parlava di identità. Ma devo dire che è servito anche a far conoscere tutta una realtà, perché accanto a questo, con la presenza anche di tanti insegnanti che facevano questo lavoro, e ai rapporti con la realtà scolastica svizzera, si sono creati rapporti per mettere in atto una metodologia interculturale. Quindi è tutto questo che può portare anche giovamento al mantenimento dell'insegnamento della lingua italiana e alla diffusione della lingua italiana attraverso questi nuovi progetti che si stanno studiando. Quindi per venire alla domanda che mi aveva fatto, io credo che se facciamo riferimento a questi valori, a questi saperi, al contributo che hanno dato i lavoratori italiani a queste realtà, mi riferisco al Vallese, noi abbiamo commemorato lo scorso anno la tragedia di Mattmark a 50 anni, 88 lavoratori, la più grossa tragedia del Vallese moderno, di morti sul lavoro, questo ghiacciaio che è venuto giù e ha ucciso queste persone, di cui 56 italiani e 23 svizzeri, poi c'erano di altre nazionalità. Ecco, che cosa facevano questi lavoratori? Erano dei titani, come dice il professor Martì, o erano degli uomini che stavano facendo un lavoro importante per lo sviluppo del Vallese moderno? La costruzione delle dighe, che poi hanno creato le centrali elettriche, quindi l'energia elettrica a buon mercato, quindi la crescita a livello svizzero, ma anche la vendita all'estero di questa energia per gli impianti industriali. In Vallese è nata la Lonza, la Lussuisse, la Ciba a Monté, grazie al lavoro di queste persone. Quindi se oggi il Vallese ha fatto questa proposta, ma questo vale anche per altre realtà e per altri gruppi etnici, perché non dovremmo avere l'esclusiva. È un dibattito in corso, giustamente, è un cantiere aperto per il futuro, ma può essere un modello, quindi non l'italiano come l'immigrato modello, ma è il modello dai fatti che può portare anche altri, i francesi, i tedeschi, i spagnoli, i portoghesi, a riconoscerci in un percorso per arrivare a vivere correttamente in questa società. Perché? Perché noi oggi ci sentiamo certamente le radici italiane, ma ci sentiamo vallesani, perché in Vallese siamo 22.000, dicono le statistiche, ma più di 10.000 sono anche vallesani, quindi votano, partecipano alle scelte politiche di questo paese e vogliamo contribuire. Abbiamo degli eletti di prima e seconda generazione a livello cantonale, a livello comunale, la stessa consigliera Damarra è una di prima generazione, di seconda generazione che è stata eletta al Parlamento. E questo avverrà sempre di più, succederà sempre di più, per cui avremo uno sguardo, cercando di non venire, di divenire strabici, mi scusi ambasciatore, alla realtà italiana, che è importante, ma dovremo sempre di più parlare della realtà svizzera. In fondo, come diceva, ha citato Piero Bassetti, il globalismo o glocalismo, pensiamo globale, è importante oggi, nella situazione in cui viviamo, sarebbe errato chiudersi nel piccolo, ma agiamo locale, perché certamente se vogliamo discutere di tutto, anche oggi, stasera, qui non arriveremo a niente, forse avremmo fatto una bellissima discussione, ma da domani, da subito, rispetto a queste idee che andranno avanti, altri li dibatteranno con altre parole, ma la sostanza, cerchiamo di agire a livello locale, quindi questo è l'obiettivo che ci siamo posti anche come Associazione Italia Vallese, di lavorare sul locale, per tenere viva la memoria storica della nostra emigrazione, dei cittadini italiani che sono arrivati qui e lavorare assieme ai nostri nuovi concittadini vallesani per costruire qualcosa di nuovo assieme in questo solco storico. Grazie.
Grazie. J'aurais juste souhaité vous entendre encore sur un point. La nouvelle migration italienne. On a parlé de l'histoire. Est-ce qu'elle existe en Valais, cette nouvelle migration italienne? Et quelle forme elle prend? Toujours avec cette idée de la contribution.
Alors, esiste anche in Vallese questa nuova immigrazione. Ci sono, a Zurigo li chiamano i secondos, ma possiamo parlare...
No, justement, c'est pas la même chose.
Ah, i nuovi arrivi. I nuovi arrivi, certamente, ci sono i nuovi arrivi. Ma questi nuovi arrivi... che abbiamo certamente un gruppo che non ha le stesse condizioni formative delle persone che sono arrivati qua, che erano analfabeti, per cui anche lì la questione dell'italiano Bisognava insegnare anche l'italiano a queste persone, oltre che a imparare la lingua locale, perché non parlavano nemmeno l'italiano. Moltissimi erano analfabeti, ma avevano una grande capacità di fare. Oggi arriva, abbiamo un'emigrazione di tipo diverso, intellettualmente e culturalmente più formata, più preparata, che è una corrente che credo si inserisce, ha sempre dei problemi di inserimento nel contesto, soprattutto nella Svizzera tedesca, e lì c'è un ruolo anche della lingua, perché noi parliamo lingua tedesca, ma bisogna riferirsi allo Schweizerdeutsch. Io sono stato 22 anni a Zurigo, non parlo né lo Schweizerdeutsch, mi arrancio in tedesco, perché poi i colleghi che insegnavano nella stessa scuola mia, la scuola media Enrico Fermi, legalmente riconosciuta, hanno imparato benissimo l'italiano, perché noi parlavamo in italiano. Ma noi non abbiamo imparato il tedesco, abbiamo fatto dei corsi, abbiamo imparato a pronunciare, a dialogare, però perché tra loro parlavano in svizzero. E quindi era più facile per un lavoratore italiano in un cantiere imparare lo Schweizerdeutsch, perché era costretto, a parte che poi sui cantieri abbiamo avuto la lingua franca, l'italiano, perché il capomastro era sempre un italiano, e quindi questo ha creato una dipendenza. Chi arrivava, lo spagnolo e il portoghese, doveva imparare l'italiano, se no non andava avanti. Oggi purtroppo per le nuove correnti migratorie, perché ne stanno arrivando, l'anno scorso credo sono stati sui 10-12 mila italiani che sono arrivati in Svizzera, è ripreso ovviamente le migrazioni. C'è questa parte che dicevamo prima, preparatissima, che non ha difficoltà a inserirsi sul mercato del lavoro, ha difficoltà di ambientamento nella società, per le cose che diceva anche prima la signora. Però abbiamo anche una nuova emigrazione che secondo me ha delle prospettive peggiori di quelle che sono arrivate negli anni 50, perché non ha quel saper fare, non ha quelle esperienze di lavoro anche minime che possono inserirle correttamente sul mercato del lavoro, perché ha anche cambiato il tipo di profilo professionale che si ricerca sui cantieri. Ad esempio, noi abbiamo molte persone che vengono in ufficio, perché mi occupo di sicurezza sociale in un patronato, e dico: che esperienza di lavoro hai? Nessuna, c'ho un diploma. Sì, ma non hai fatto nessuna esperienza di lavoro? No, c'ho un diploma, posso fare tutto. No, aspetta, che lingua parli? Nessuna, parlo l'italiano. Ecco. Quindi già questi due elementi, e dici: ma che tipo di lavoro potresti fare? Ma io posso fare tutto. Ma sai, se vai in un cantiere e manovrare una macchina, un trattore, una gru, no. Ecco, questa è la cosa. Quindi vanno a finire, se c'è possibilità, ma è limitata, in un ristorante a lavare i piatti, oppure in un albergo a fare personale di servizio. Queste sono le prospettive, perché abbiamo questo tipo di figure, di persone che arrivano qui e non hanno esperienze di lavoro, non possono andare nemmeno nell'agricoltura.
Allora, c'è una reazione di Sarah.
Ci sono anche moltissimi della nuova generazione che vengono invece con altissimi studi accademici. Sì, sì. E quindi, sì, sì. Sì, 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 sì. Sono molto d'accordo sul resto che ha detto.
J'encourage mes hôtes sur ce plateau à continuer à parler en français, sinon ça va vraiment devenir compliqué pour moi. C'est très bien. Je profite pour faire la transition, à moins qu'il y ait une question de la salle sur cette question de la contribution et une réaction. Sinon, je continuerai vers la troisième partie avant d'ouvrir à la salle pour poser cette question de l'exemplarité. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon ? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un plaidoyer là sur l'expérience que ces Italiens avaient fait en s'intégrant sur le marché du travail en Suisse, qui forme une certaine identité. Est-ce que les autres, les nouveaux migrants, alors cette fois-ci pas italiens, on pensera à toute la migration avec l'Union européenne, on pensera à migration extra-européenne, on pourrait même penser au domaine de l'asile, est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience de l'italiénité et appliquer ça aux nouvelles formes de migration ? Est-ce qu'on peut se puiser là-dedans comme dans une caisse à bonne idée ?
Allez. Je me demande si c'est le cas d'apprendre de l'expérience de l'italien.
Non, je crois que c'est bon.
C'est bon ? C'est bon.
c'est peut-être le cas d'apprendre de l'expérience du débat et des discussions qu'on fait autour de l'italianité. Mm-hmm. Je trouve ça tout à fait intéressant, puisqu'il y a tout à fait, il y a des éléments qui ressortent autour de la diversité, de la nécessité d'avoir de différentes cultures, de l'interculturalité, etc. Donc, personnellement, je trouve toute l'expérience du débat politique et social qui se fait autour de l'italianité extrêmement intéressante comme modèle de réflexion pour tout le reste, je veux dire, pour toute la question autour des différentes cultures, et etc., plutôt que de prendre un exemple qui me paraît pour l'instant un peu figé encore autour de l'idée de l'immigration italienne. Je pense par exemple au fait qu'en général, dans ces débats, on ne met jamais en avant le fait qu'il y avait dans l'immigration italienne une partie très importante d'entrepreneurs qui ont mis en place toute une série d'entreprises, petites entreprises, etc. Je veux dire que l'immigration italienne, par exemple, a été étudiée seulement pour une partie qui est très importante, fondamentale, je dirais, mais qu'il y avait dans cette immigration des gens qui ont fait des parcours différenciés. Je pense au lac Léman, par exemple, qui ne sont pratiquement pas connus, ou très peu connus, je veux dire. Et donc, ce qui me paraît tout à fait important, c'est tout le débat qu'il y a là autour, en partant du patrimoine jusqu'au discours autour des langues et des diversités, parce que c'est là la richesse d'un futur, disons, d'interculturalité, plus que sur l'immigration en tant que telle, comme groupe migratoire.
Mais... Ça veut dire qu'on se retrouve dans 20 ans et j'anime une table ronde avec des Érythréens. Et mais on parle non, de l'érythréanité de la Suisse.
Mais non, on a tellement appris de ce débat qu'on n'aura plus besoin de tout ça. Ça, c'est un peu utopique, mais c'est un peu ça l'idée. Parce que si vous commencez à dire que c'est exemplaire, on peut commencer à dire d'une façon un peu scientifique, les Italiens étaient à la frontière. Et on sait bien que les politiques migratoires se sont formées de façon à avoir des frontières plus en plus éloignés ou de plus en plus rapprochés, et que bon voilà, l'italien était l'étranger, mais à un certain moment il a été intégré comme quelqu'un qui est tellement rassemblant à nous. C'est la vision du soi et de l'autre qui est là au milieu de ce discours. Et si, donc voilà, dans ce sens-là, je dis on peut débattre sur les Italiens, mais faisons une étude de cas plutôt qu'un exemplaire de...
Moi, si je retiens quelque chose de l'immigration italienne, et aujourd'hui, on est en train de faire le pas. Bon, d'abord, il faut rappeler que l'immigration italienne, elle était politique. Enfin, il y a eu des organisations quand même politiques en Suisse. Ce n'était pas que la nourriture, on danse la pizza et la tarentelle. Il y avait toute une réflexion politique comme ouvrier, parce que c'était la majorité des gens qui étaient là. Donc, il y a une contribution à la Suisse sur les droits politiques, déjà, qui ont été faits à travers les Italiens. Aujourd'hui, enfin, après il y a les Espagnols, on parle des Italiens, mais les Espagnols étaient aussi très organisés au niveau politique aussi. Après, il y a d'autres migrations qui sont, elles, alors, vraiment plus économiques. Puis vous parlez des Érythréens, alors effectivement, tant que la Suisse et l'Europe restera ce qu'elle est, une forteresse, ça va être difficile pour eux, un, de se construire politiquement, et deux, de sortir de l'idée du marché. La Suisse doit reconnaître aussi des titres. Je parle des Érythréens, mais on parle des États tiers. Enfin, voilà. Il y a quand même un contexte politique qui est différent. Mais moi, si je devais retenir, si je devais conseiller modestement un groupe qui viendrait en Suisse, c'est de dire, dépêchez-vous, et vous l'avez dit, de demander les droits où vous êtes. Alors évidemment, c'est difficile. La première génération, moi j'appelle toujours la première génération sacrifiée, parce que ni là-bas, ni ici, difficultés, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, il y a la deuxième. La deuxième, enfin je veux dire, en Suisse, il y a des troisièmes générations d'étrangers qui sont italiens. Il y en a. On les évalue, enfin pas qu'italiens d'ailleurs, on les évalue de manière globale entre 5 et 6 000 par an, des troisièmes générations d'étrangers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut maintenant dépasser, et le discours des associations doivent changer, elles sont en train de changer, et des partis politiques de gauche à droite italienne en Suisse, et de dire, ben, maintenant il faut vous battre pour le droit de vote, faciliter, naturalisez-vous, enfin... Parlez de votre caisse d'assurance maladie ici, parce que vos enfants et même vous, vous allez vivre ici, vous occupez pas de votre maison en Italie. Je profite de dire qu'il va falloir la déclarer en Suisse avec l'échange automatique d'informations pour que ça intéresse. Dépêchez-vous de le faire. Enfin, voilà, ce type de choses, voilà, c'est ça que je retiendrai. C'est essayer de dire essayez quand même de vous tourner très vite là où vous êtes, parce que c'est ça l'enjeu. Si.
Je parle d'immigration, je parle d'immigration notamment économique ou politique, mais voilà, avec toute une série de... Tandis que là, on le voit bien dans les médias, en général, on parle de, voilà, requérant l'asile, immigrés, étrangers, on ne comprend plus rien. Mais le cas de l'immigration est un cas spécifique, et donc il faudrait parler de... Donc les Érythréens, c'est une autre chose, à mon sens.
Suzanne, je vous ai vu vouloir réagir sur l'exemplarité.
Du débat, ce qu'il faudrait peut-être retenir justement, c'est que c'est extrêmement, ce serait central d'avoir un débat justement sur la façon dont un écart, ce qu'on appelle la diversité, est perçu par les gens. C'est-à-dire qu'il y a dans le contact social, et ça peut tout à fait, tout d'un coup, ça dépend de la situation et l'interaction. Il y a une facette, vous avez tous souligné les mille facettes d'un sentiment d'appartenance, d'un sentiment identitaire, et puis selon l'interaction, il y en a une qui va émerger plutôt que l'autre. Alors d'abord, ça c'est une chose, et seule une fine ethnographie des interactions peut faire émerger ça. Puis la deuxième chose, et ça je vous rejoins Nelly, c'est véritablement de dire il faut qu'il y ait un débat entre les institutions politiques, les représentants au Parlement, les citoyens, ce qu'on appelle la société civile, sur leur propre idée de ce qu'est la citoyenneté, de ce qu'est une identité, de ce qu'est une culture. Parce qu'encore une fois, tout cela, ce sont des façons de qualifier des écarts et des différences. Il ne s'agit pas de nier de la diversité, il ne s'agit pas de nier des différences, il s'agit de voir dans des expériences concrètes comment les gens se qualifient, sont qualifiés, comment ils intègrent ou pas ce genre de choses. Un stigmate, il peut se retourner en emblème, une sorte de fierté, justement. C'est toute cette finesse, justement, des interactions sociales qu'il faudrait prendre en compte. Et à mon avis, si peut-être cette commission malaisanne, elle a pu apporter quelque chose que j'espère, c'est que c'est sur ces questions-là qu'il faut débattre. Sur ces questions, qu'est-ce qui est représentatif, ces adéquations, on parle de... local, global. Mais le sentiment d'appartenance, il peut être multiple, il peut tout d'un coup déborder, tout d'un coup il peut se resserrer. C'est tellement souple quand on voit dans les interactions, tout d'un coup la langue est une science, mais des fois pas, des fois c'est autre chose. Et puis c'est toute cette richesse justement, mais ça doit être débattu sur la place publique. C'est ça un acte politique justement, c'est de faire émerger. C'est pour ça que l'implicite, laisser les choses, je ne suis pas tellement partisane de ça, parce que ça entretient le sens commun, ça entretient justement toutes sortes de clichés, de stéréotypes. Il faut débattre de ça. Et je pense que, alors là, peu importe la couleur, peu importe le genre, peu importe la classe, c'est la façon dont les gens se perçoivent et puis qualifient leur expérience et puis l'expérience des autres. Enfin voilà, ça, c'est ce que j'espère.
Alors j'ai juste une réaction de Sarah sur cette question. Ça m'intéresserait aussi d'avoir votre avis sur cette nouvelle génération. Et j'ai entendu un peu un appel à participer politiquement là où vous êtes.
Oui, là, oui, exactement.
Ah.
Oui.
Est-ce que c'est un message qui passe auprès, par exemple, des gens de votre association ?
Je suis très d'accord avec elle. Mais quand on parle du sens de politique, une des choses que j'entends le plus, c'est ce droit de vote. Donc moi, je voudrais seulement apporter un exemple. Moi, j'étais une immigrée ou émigrée suisse et italienne en Espagne, à Barcelone. Après 5 ans que j'étais à Barcelone, moi, je pouvais voter au niveau de la ville et au niveau de la région de Catalogne. Je ne dis pas à un niveau national et comme ça. Mais donc déjà, si quelqu'un après vivre, pas de, après 2 semaines, évidemment, mais si on arrive déjà à avoir le droit de participation à la vie locale, à niveau politique, de pouvoir voter comme ça, c'est déjà, je crois, déjà un pas d'intégration, et de se faire sentir aussi, entre guillemets, l'immigré intégré dans la vie politique. Et donc, comme exemple de la Catalogne, je trouvais ça énorme. Et ça me déplaît de ne de pas voir ça en Suisse, par exemple.
Le message est passé. Monsieur Pigny, votre réaction m'intéresse aussi sur l'exemplarité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette discussion ?
Eh bien, c'est difficile de ne pas partager la vision qui vient d'être résumée par Mme Chappaz. C'est à la fois un message de plurilinguisme et de diversité, mais qui n'est pas incompatible avec un statut, je dirais, privilégié de l'italianité en Suisse, par sa taille, par son histoire, par l'exemplarité évoquée tout à l'heure, mais aussi... par le fait que c'est une langue nationale, tout simplement. Donc, elle jouit de toute une série de, pardonnez-moi le mot, de privilèges qu'il faut quand même défendre constamment. Et je reviens peut-être sur le sujet qui préoccupe en tout cas une partie des instances publiques, c'est l'enseignement des langues. L'enseignement des langues et justement la vitalité qui doit s'en suivre pour les générations, la troisième, la quatrième, la cinquième génération d'Italiens qui sont en Suisse, avec leurs différences, avec leurs approches complètement différentes. Celles qui étaient des générations d'il y a 20, 30, 40 ans, et celles d'aujourd'hui, qui veulent la diversité des villes, qui veulent justement cette rapidité et cette mobilité qui fait que le besoin, disons comme ça, d'intégration est tout à fait différent. Qui ont besoin de pouvoir scolariser leurs enfants en italien, s'ils le veulent, partout, pas seulement dans les cantons dans lesquels l'italien est la langue du territoire. Ils doivent trouver des écoles primaires et secondaires dans tous les cantons de Suisse, en tout cas dans toutes les dimensions urbaines et périurbaines dans lesquelles vit 75% de la population suisse. Voilà.
Le message est là aussi passé. Très bien. Merci beaucoup. Je me tourne du côté de la salle et j'aimerais avoir vos réactions, questions, commentaires. Je vous propose de brièvement, je crois qu'il y a un micro qui circule. Ouais, brièvement, dites en deux mots qui vous êtes.
Avoir un autre désir. Avoir un autre désir, c'est celui que ce type de discussion, de réflexion et de réflexion commune se fasse très tôt en âge. J'ai cette chance d'enseigner dans des quartiers plutôt non désidérés de Genève. Ce soir, j'ai beaucoup entendu le mot pluralité, Suisse pluriel, le mot tension. Les tensions sont avant tout des tensions à l'intérieur. Et par rapport aux jeunes qui ont 14, 15 ans, nés en Suisse, c'est encore aujourd'hui très présent. Il faut travailler très tôt. Je serais heureuse que ce type de discussion du monde académique, scientifique, politique, soit d'une manière ou d'une autre introduit à un programme d'éducation à la Suisse plurielle, pas seulement pour le cours de civisme, mais sous forme de débat, parce que c'est le moment de désamorcer des tensions identitaires qui sont assez dangereuses, à mon avis. Je ne comprends pas pourquoi, effectivement, la maturité d'Italien a disparu. Il y a une forte hégémonie économique qui se fait sur le cursus scolaire. Il ne faut pas se le cacher. Donc, l'italien, OK, on est voisins, on se débrouille. Mais effectivement, vous n'imaginez pas ce que ça peut être pour des Albanais. J'ai la chance souvent de me retrouver face à 7, 8 gars albanais dans une classe où je suis la seule femme à ce cours. C'est une vraie partie de plaisir d'apprendre à communiquer avec ces jeunes gars. Je pense que ça serait le moment que la Suisse repense ses programmes scolaires au point de vue identité, individuel. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pluriel? Jung disait, nous sommes une confédération, nous en tant qu'individus, nous sommes une confédération d'âmes. Et c'est un grand défi de recoudre, de trouver les articulations. Donc ça serait aussi peut-être le moment de voir qu'on ne va pas chercher via il consolato. Moi je suis très reconnaissante que le consolato d'Italia est un corso di lingua. Mais on doit aller à l'extérieur. Il faut que ça vienne à l'école et notamment d'introduire des choix de cours d'arabe, des choix de cours d'albanais pour que l'école ne soit pas un élément économique, que ça soit un élément aussi identitaire.
Merci.
Voilà, merci.
Magnifique. Une deuxième réaction, monsieur.
Bonsoir, ici je représente le Forum pour l'Italien en Suisse. qui c'est une institution créée par le canton du Tessin et par le canton des Grisons. On compte aujourd'hui 36 associations en Suisse qui ont pour but de promouvoir le plurilinguisme et dans ce contexte, le respect de la langue italienne. Alors, en écoutant ce soir, il semblerait que le thème de l'identité italienne est bien vécu, tout est positif, etc. Moi, j'ai une autre vision des choses. Nos organisations, quelques-unes sont présentes ici en salle, et je les remercie, doivent constamment intervenir auprès des autorités cantonales, communales, fédérales, pour avoir le droit qu'ont les autres Suisses, de Suisse alémanique, Suisse romande, c'est-à-dire le respect de sa langue. Même dans le canton de Valais, madame, j'ai appris avec plaisir cet effort vis-à-vis de l'italianita. Mais vous savez que le canton de Valais n'offre même pas dans ses cycles d'orientation la possibilité aux élèves valaisans de choisir la langue italienne. Donc il y a une grande contradiction entre l'histoire, ce qu'on a vécu et la réalité. La même chose se présente avec la maturité. On a dû combattre vis-à-vis des cantons parce que la moitié des cantons en Suisse n'offrent pas l'italien comme langue de maturité, même s'il y a l'ordonnance fédérale qui règle ça. Donc, on est dans une situation hybride, dans le sens que sur le principe, tout le monde est d'accord, mais puis quand on descend dans la réalité, on l'oublie. Même monsieur le conseiller fédéral Bercier, qui courageusement a lancé ce projet de modification de loi sur la langue, et là, il a complètement oublié la langue italienne. Tout le combat, c'est entre le français en Suisse alémanique ou l'anglais. De la troisième langue nationale, rien. Donc, pour vous dire que si nos organisations sont engagées sur ce plan, c'est parce qu'elles ressentent la nécessité de renforcer le plurilinguisme et l'identité de toutes les langues qui sont en Suisse. Et donc, c'est dans ce sens qu'on a participé avec beaucoup d'intérêt à cette soirée.
Merci, monsieur. Je vous remercie d'amener une voix aussi critique. C'est très important pour un podium de ce genre. Je ne sais pas à qui la question ou la remarque était adressée en particulier. Je me suis permis de donner la parole à ma droite pour une réaction. D'accord.
Absolument. Absolument. Moi, je partage 100% les préoccupations de M. Diego Herba et du Forum, justement. C'est pour ça que je disais, et j'ai répété deux fois, qu'une des priorités, au-delà de cette très belle aventure de l'italianité en Valais, il y a justement des réalités liées aux problèmes essentiels de l'école. L'école au niveau primaire, où il y a justement toute une série, une panoplie de mesures qui sont à découvrir, à mettre en place en synergie, si possible, entre les cantons et éventuellement l'offre coordonnée par l'ambassade d'Italie. C'est essentiel. C'est le débat, disons, des prochains mois. C'est un débat qui doit accompagner l'initiative de M. Bercier concernant justement le statut du français, mais on se cache là derrière avec l'italien. Et c'est la réalité, justement, qu'il faut mettre en dialogue par rapport au sujet qu'on a traité. Peut-être vous permettez juste une petite nuance concernant le principe de territorialité. Il y a là justement une différence fondamentale entre le statut d'une langue comme l'italien, qui est une langue nationale et langue officielle en plus, donc elle jouit d'un statut encore plus important, et les autres langues. C'est là qu'à mon avis, il y a à la limite un problème, un danger, en tout cas un obstacle incontestable pour l'intégration d'autres langues, d'autres nationalités qui ont un besoin, Madame Campanile l'a évoqué, un besoin de communication fonctionnelle immédiate. Donc là, il faut étoffer l'offre petite qui existe, mais qui n'est pas utilisée d'une manière conséquente, et puis de toute façon, elle est dérisoire par rapport aux besoins, de soutenir les cours dans les langues d'origine pour faciliter l'intégration de toute la panoplie de langues et de populations qui enrichissent surtout nos milieux urbains.
Nelly, vous voulez réagir là-dessus?
Oui, je voulais juste dire que, à mon sens, l'italien et l'italianité sont deux choses différentes, c'est-à-dire la langue a une partie fort importante, même la principale de l'italianité, et qui concerne toutes ces questions très importantes d'enseignement, mais l'italianité est quelque chose, à mon sens, de plus vaste qu'un concept, et que donc c'est pour cela qu'il va... Bon, peut-être on n'a pas abordé cette question très ponctuelle, mais je dirais que la question de l'enseignement d'italien serait très intéressante à débattre dans une déconstruction critique du fédéralisme. Qu'est-ce que c'était le fédéralisme ? Comment on l'a, disons, qu'est-ce que c'était la réception fausse du fédéralisme ? Et puis, qu'est-ce que c'est maintenant ? Donc voilà, on devrait lancer une autre...
Je propose qu'on garde ça pour la prochaine table ronde. La déconstruction critique du fédéralisme, ça c'est un bon titre. S'il n'y a pas de questions urgentes de la salle... C'est toujours difficile de poser une question quand je dis ça. J'en suis tout à fait conscient. Je vous propose qu'on termine là avec la partie officielle. Jacques Cordonnier, l'apéro, ça se passera où nous étions avant pour la première partie. Je vous demande d'applaudir tous mes invités qui ont participé à cette discussion. Merci à vous. J'ai cru comprendre que la plupart seraient là pendant l'apéritif, donc n'hésitez pas à prendre contact. Et puis, au nom des organisateurs, merci à toutes et à tous. Et puis, rendez-vous pour le verre de l'amitié. Merci à vous. Merci. Hello.
Thank you.